santé et le bien-être dans Maïcha Bora. Maïcha Bora, c'est cette émission qui traite de tout ce qui touche aux maladies, à la prise en charge médicale et aux idées reçues sur ces maladies. Maïcha Bora, votre santé et bien-être sont au cœur de nos préoccupations, notre priorité. Tous les lundis à 6h30, 13h30 et 20h30. En rediffusion, le mercredi à 9h15.
Comment protéger une œuvre d'esprit? C'est le sujet que l'émission au Capi Service aborde aujourd'hui. Vous savez, en RDC, les créations artistiques, littéraires ou encore scientifiques ne sont pas toujours protégées. Et la plupart des créateurs d'œuvres d'esprit se plaignent du fait qu'ils ne bénéficient pas des droits de leurs inventions. Il y a d'autres personnes qui piratent leurs œuvres. Ça peut être des œuvres, ça peut être un morceau de musique ou d'autres œuvres littéraires. Alors que faut-il comprendre par œuvre d'esprit et comment garantir sa protection? Eh bien, nous allons parler de tout cela dans l'émission au Capi Service de séjour. Vous avez des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94. Appelez également au 099 706 63 94. Et merci de poster aussi vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Merci déjà à tous les internautes qui ont réagi sur la page Facebook de votre émission Okapi Service. Maître Théodore Nganzi, bonjour.
Bonjour, monsieur Joly Kacham.
Alors, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions des droits d'auteur et président de l'Observatoire des droits culturels. Nous parlons aujourd'hui de la protection des œuvres d'esprit. Qu'est-ce qu'on entend par une œuvre d'esprit?
Une œuvre de l'esprit, c'est une création immatérielle qui est le fruit de la conception et de la réalisation. C'est-à-dire, lorsqu'on conçoit au niveau de l'intelligence, on doit mettre en forme par la réalisation. Et à partir de ce moment-là, on peut parler d'une œuvre de l'esprit.
Quels sont les différents types d'œuvres que nous avons?
On distingue principalement deux catégories d'œuvres. Il y a d'un côté deux œuvres littéraires qui sont constituées principalement des mots, tels que le roman, le poème, les ouvrages scientifiques. Et de l'autre côté, nous avons les œuvres artistiques. Là-dedans, il y a plusieurs sous-catégories. Nous avons les œuvres musicales, les œuvres plastique, les œuvres architecturales, les œuvres photos, tout ça c'est dans la catégorie des œuvres artistiques. Donc bref, il y a deux catégories d'œuvres de l'esprit. Mm-hmm. Il y a les œuvres littéraires d'un côté et de l'autre côté les œuvres artistiques, y compris les œuvres musicales dans la catégorie des œuvres artistiques.
Et c'est quoi? Qu'est-ce qui différencie les deux types d'œuvres?
L'élément principal c'est quoi? C'est qu'une œuvre littéraire c'est celle qui est exclusivement constituée des mots. Par contre, une œuvre artistique est constituée des éléments autres que le mot. Mais il peut arriver qu'une œuvre soit à la fois littéraire et artistique, parce qu'elle est constituée des textes, des images, des sons. Exemple, une œuvre multimédia, une base de données peut être composée de textes, de sons, des images. À partir de ce moment-là, on peut parler d'une œuvre littéraire et artistique.
Mmh. Voilà. Alors pour les œuvres littéraires, vous avez cité par exemple
le roman, le poème, les ouvrages scientifiques, les travaux de fin des cycles, les thèses de doctorat, les plaidoiries des avocats, les sermons religieux, tout ça, ça rentre dans la catégorie. Articles scientifiques, tout ça, ça rentre dans la catégorie des œuvres littéraires. Mais une œuvre littéraire peut aussi être orale, hein, elle n'est pas nécessairement écrite. Okay. Donc la loi protège aussi les œuvres orales, même si elles ne sont pas écrites. Mais elles sont aussi protégées par la loi sur le droit d'auteur.
Comme quoi, une déclamation poème?
Même un sermon religieux, un prédicateur peut prêcher oralement sans avoir préparé un mot. Mais si vous enregistrez cette prédication sans son autorisation et que vous la rediffusez, il peut vous poursuivre parce que vous avez exploité de manière abusive une œuvre de l'esprit, même si elle a été oralement rendue au public.
Bien, et les œuvres artistiques, vous avez parlé de la musique,
oui,
des arts
de la
plastiques.
Musique, des arts plastiques.
Une chanson, par exemple.
Une chanson, c'est une œuvre artistique. Elle est constituée de sons. La chanson, c'est un arrangement de sons, une juxtaposition de sons. C'est ça la chanson.
Un tableau, par exemple.
Un tableau, c'est une œuvre plastique. Et une œuvre sculpturale, c'est une œuvre artistique. Le métal battu, ça rentre dans la catégorie des œuvres plastiques. Les photos aussi, on peut les assimiler aux œuvres graphiques. Donc tout ce qui est dessin, image, de forme bidimensionnelle ou tridimensionnelle, c'est ça. Donc ça peut être plat sur la surface, ou bien ça peut prendre la hauteur avec un volume. Donc c'est ça les œuvres graphiques et plastiques. Donc tout ce qui est bidimensionnel ou tridimensionnel rentre dans la catégorie des œuvres plastiques ou graphiques.
Voilà. Alors dites-nous, Maître Théodore Nganzi, pourquoi faut-il protéger une œuvre d'esprit ?
On protège une œuvre d'esprit pour garantir les droits de paternité sur l'œuvre. C'est-à-dire que lorsque vous créez une œuvre, vous devez vous faire identifier sur le support qui contient l'œuvre. Si c'est une œuvre littéraire, par exemple un roman, vous devez indiquer votre nom sur le support. À partir de ce moment-là, on peut vous reconnaître comme auteur de l'œuvre. Lorsque vous créez un tableau de peinture, vous devez signer en bas, mettez votre nom pour qu'on vous identifie. Comme ça, on peut vous retrouver facilement en tant que créateur. Ça crée un lien entre le propriétaire de l'œuvre et l'œuvre elle-même. Voilà, c'est ça l'intérêt de la protection.
On voit même les photographes, ils mettent toujours en bas un peu leur nom et puis signature.
Comme ça, quand on veut exploiter l'œuvre par un tiers, ils peuvent vous retrouver facilement à partir de la signature. Et ça permet aussi de faire la publicité de l'auteur et de le lier à l'œuvre, parce que c'est un droit de paternité. C'est en réalité le droit du propriétaire sur l'œuvre. Voilà.
Voilà, donc il faut protéger une œuvre pour garantir le droit de paternité. Et à part cela, y a-t-il d'autres raisons ?
Oui, il y a d'autres raisons parce que lorsque l'œuvre est exploitée sur le marché, on a besoin d'identifier l'auteur de l'œuvre. Par exemple, dans le cas de la gestion collective des œuvres, les œuvres qui sont destinées à la gestion collective, par exemple les œuvres musicales, lorsque l'œuvre commence à être diffusée à large échelle partout dans le monde, il faut qu'on puisse savoir qui en est l'auteur. Alors, lorsque vous ne vous êtes pas fait identifier correctement sur le support de l'œuvre, on va considérer l'œuvre comme étant une œuvre anonyme et vous n'aurez pas de droits. C'est ça l'intérêt de l'identification de l'auteur sur le support de l'œuvre. C'est vrai que dans la pratique, avec des nouvelles créations techniques comme le programme d'ordinateur, il est de plus en plus difficile aux créateurs de se faire identifier parce que ce sont les œuvres qui sont soit commandées par des grandes entreprises ou qui sont réalisées sur commande. Ce sont ces entreprises-là qui mettent leur nom sur ces applications, sur ces logiciels, comme étant leur produit. Là, ça devient un peu compliqué, mais ça, c'est un autre débat.
Un logiciel aussi, ou une application. Aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des jeunes développeurs qui arrivent à mettre en place des applications. On peut dire que ce sont des œuvres d'esprit qui doivent aussi être protégées.
Oui, ce sont les œuvres de l'esprit qui sont protégées au même titre que les œuvres littéraires. Mais je dois avouer que notre loi est déjà dépassée par rapport à cette question, parce que la loi est de 86. Or, l'Internet et l'informatique se sont développés depuis 86. Donc, nous avons intérêt à revoir notre loi sur cette question-là.
Alors, quels sont les droits qui sont attachés à la paternité d'une œuvre ? Lorsqu'on reconnaît que vous êtes l'auteur ou le père d'une œuvre, quels sont vos droits à ce moment-là ?
Bon, il y a principalement deux droits patrimoniaux généralement deux droits patrimoniaux qui sont reconnus à l'auteur de l'œuvre. Le premier droit, c'est le droit de reproduction de l'œuvre. La reproduction, c'est la fixation matérielle de l'œuvre sur n'importe quel support. Alors, le deuxième droit, c'est le droit de communication publique de l'œuvre. C'est le droit d'autoriser ou d'interdire que l'œuvre soit perçue par le public directement. Alors, il y a un autre droit qui ne concerne que les œuvres graphiques et plastiques, c'est le droit des suites. C'est le droit de percevoir un pourcentage sur le produit de la revente d'une œuvre graphique ou plastique, souvent quand elle est vendue aux enchères ou lorsqu'elle est vendue entre commerçants. Voilà. Donc, je me résume, j'ai dit qu'il y a trois droits patrimoniaux. Deux droits. Donc, il y a le droit de reproduction, qui concerne tous les auteurs. Il y a le droit de communication au public, qui concerne aussi tous les auteurs. Et puis, il y a le droit des suites, qui ne concerne que les auteurs des œuvres graphiques et plastiques.
D'accord. On va poursuivre tout à l'heure. Le temps d'accueillir les auditeurs. Nous avons déjà trois auditeurs en ligne, nous allons les accueillir dans quelques instants. Vous voulez aussi participer, appelez au 081 890 63 94. Nous parlons aujourd'hui de la protection des œuvres de l'esprit. Kachai nous appelle de Kanyoka et Jires et Maka de Bandunduville. Kachai, bonjour.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Oui, monsieur le journaliste, j'ai quelques préoccupations à soumettre à l'appréciation de l'invité.
Oui.
La première, c'est celle de savoir, lorsque un professeur d'université ou soit un assistant se permet d'approfondir un travail de fin de cycle ou soit un mémoire d'un étudiant, pour le publier comme article. Cela pourrait constituer quel acte malsain à l'endroit de cet étudiant-là. Deuxièmement, lorsque un assistant dispense les cours avec le support d'un professeur, mais sur la feuille de garde, il n'écrit pas le nom du professeur, il écrit son propre nom. Cela peut constituer quelle sorte de manquement qu'aurait commis cet assistant-là. Troisièmement, pour terminer, lorsque les assistants, soit les chefs de travaux, se permettent de publier un article collégial dans une revue. Ils ont par exemple publié cet article-là dans la revue de l'université de Kanang, par exemple, et l'un d'eux envoie le même article dans une autre revue, par exemple de l'université de Kinshasa, mais en éléguant les noms des autres. Alors, cela constitue, comment peut-on qualifier cela par rapport à la protection des œuvres de l'esprit? Merci beaucoup.
D'accord, merci Kachai de Kanyoka. Jurès et Maka, vous êtes à Bandundouville. Bonjour.
Bonjour Jody, merci de m'avoir accordé la parole et je vous souhaite un bon début de la semaine.
Merci.
Je partage les sujets en ce sens. Moi, je pense que la meilleure façon de pouvoir protéger les œuvres de l'esprit consiste à pouvoir mettre en place des lois qui puissent protéger les œuvres de l'esprit. Bon, les lois existent, il me semble, mais l'applicabilité, c'est ce qui fait défaut. Donc, je crois qu'on doit pouvoir renforcer les choses dans ce sens-là. Et aussi, je vais poser une question. Il arrive parfois à l'université que les enseignants donnent des TP qui envoient les étudiants pouvoir faire de recherches. Et parfois, les enseignants se servent des résultats de recherche des étudiants pour pouvoir publier certains ouvrages. Alors, est-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce que l'invité peut nous dire? Lorsqu'un étudiant voit, par exemple, un sujet exploité par un enseignant sur une publication, peut-il réclamer que justice lui soit rendue en tant qu'auteur de la recherche qui a permis à l'enseignant de pouvoir publier? Julien, je vous remercie, je vous souhaite bonne journée.
Merci Jurès et Maka. Lavoisier Van Adomel nous a écrit sur la page Facebook d'Okapi Service. Il pose la question suivante. Est-ce que le gouvernement congolais ne peut pas adopter une loi protégeant les œuvres des esprits? Bonne journée à tous. Lavoisier Mopongu à Gemena. Maître Théodore Ngandi, je reviens à vous. Vous êtes spécialiste des questions des droits d'auteur et président de l'Observatoire des droits culturels. Vous avez suivi Kachai de Kanyoka veut savoir, il dit qu'il y a un enseignant ou un chef de travaux ou un assistant qui récupère le travail d'un étudiant, il va l'approfondir pour aller le publier en son nom, par exemple, dans une revue scientifique où les étudiants vont faire des TP et les enseignants récupèrent les résultats et puis bon, ils vont rédiger des articles et si un étudiant retrouve l'article qu'il avait produit ou bien les travaux qu'il avait produits, qu'est-ce qu'il peut faire à ce moment-là?
Merci. Là, nous sommes dans une hypothèse. Il y a deux hypothèses qu'il faut prendre. C'est soit une œuvre de collaboration lorsque les étudiants ont été appelés à participer à la production d'un article scientifique avec leurs enseignants. Dans ces cas, les enseignants ont l'obligation légale de citer les noms de ces étudiants comme collaborateurs parce qu'ils ont participé à la création de cette œuvre-là. Mais ça peut aussi être l'hypothèse d'une œuvre dérivée, c'est-à-dire l'enseignant s'appuie sur les travaux préexistants des étudiants pour produire un travail scientifique. Dans ces cas-là, il a l'obligation de citer ces étudiants-là comme auteurs de l'œuvre préexistante. C'est une question d'honnêteté scientifique et du respect du travail de l'autre. Et c'est vrai qu'on peut aussi, dans certaines universités, avoir des clauses qui permettent un transfert automatique de droits en faveur de l'enseignement de l'université. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous créez une œuvre dans le cadre d'un contrat de travail ou dans le cadre comme fonctionnaire de l'État, il y a un transfert automatique de droits d'auteur en faveur de l'État ou de l'administration qui vous emploie. Donc nous pouvons assimiler ces hypothèses dans ce cadre-là de transfert de droits automatiques à l'État. Or, si c'est des universités publiques, on suppose que c'est une institution qui emploie ces étudiants-là. On peut prétendre que l'université a piloté ses travaux et c'est l'université qui en devient propriétaire. Mais c'est discutable, il faut apprécier ça au cas par cas.
Voilà, merci. Voilà, il faut apprécier au cas par cas. Et nous avons également la préoccupation des Kachai qui parle d'un assistant, par exemple, qui enseigne à l'université avec le support d'un professeur, mais qu'est-ce qu'il fait sur la page des gardes? Il enlève le nom du professeur et il le remplace par le sien. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Là, il s'agit de la violation du droit à la paternité de l'œuvre. Il n'est pas propriétaire de l'œuvre, mais prétend être propriétaire de l'œuvre. Il viole un droit moral de l'œuvre, de vrai auteur de l'œuvre. Celui-là peut le poursuivre en justice et il risque d'être condamné pour contrefaçon parce qu'il a violé un droit moral.
Voilà. Il parle aussi d'un article collégial. Deux, trois assistants ont rédigé un article qu'ils ont publié dans une revue scientifique, mais l'un d'entre eux s'organise pour envoyer cet article dans une autre revue en son propre nom, alors que c'était un article collégial.
Là aussi, c'est pratiquement une hypothèse très proche de la deuxième que nous venons d'examiner. Il y a une violation du droit à la paternité de l'œuvre des autres créateurs. Parce que nous sommes là dans l'hypothèse d'une œuvre de collaboration créée par plusieurs personnes que nous considérons comme des copropriétaires de l'œuvre. Lorsque un copropriétaire agit, exploite l'œuvre sans l'accord ou l'autorisation des autres copropriétaires, il viole le droit de copropriété sur l'œuvre. Et les autres peuvent le poursuivre en justice, même par rapport au droit commun des contrats sur la copropriété, en tant que violation du droit moral. Parce que là, ils ont violé les droits à la il a violé les droits à la paternité des autres sur l'œuvre. Voilà les réponses que je peux donner à ces sujets.
Prenons le cas, par exemple, des deux musiciens qui font un featuring. Ils vont chanter ensemble. À qui revient cette œuvre-là?
Ils sont dans une copropriété. C'est une œuvre de collaboration. Ils sont dans une copropriété. Ils doivent gérer l'œuvre conjointement. C'est comme une maison qui appartient à plusieurs héritiers. Ils doivent gérer la maison conjointement. C'est la même chose. C'est le même principe.
Donc, ils vont partager les droits de reproduction et les droits de communication publique.
Parfait.
Voilà, on va accueillir Malonga de Bandonville et Zaïd Mboujimaï. Malonga, bonjour.
Bonjour aujourd'hui et bonjour à notre invité excellent, que je suis vraiment très bien.
On vous écoute.
Ok, merci beaucoup. Bon, pour ça aujourd'hui, moi je vois que c'est un peu compliqué. Vous voyez, dans la science, on peut traiter même un sujet, plusieurs personnes, mais les idées différentes. Mais si moi, on parle de la décentralisation, hein, par exemple, de la décentralisation. Vous aussi, aujourd'hui, vous parlez de la décentralisation. L'autre aussi de la décentralisation. Mais si on lit ces trois ouvrages, on verra vraiment des idées un peu différentes. Même il peut y avoir une concordance vraiment de nuances, mais les commentaires seront différents. Est-ce que ça aussi, c'est prohibé à la science? Je vais abonder aussi au même pied de ceux qui ont déjà parlé. Vous voyez, les idées sont toujours comme ça. Les artistes, surtout nos frères et les responsables de théâtre,
oui,
ils ont les Sokoda là-bas. Vous verrez que l'autre évolue sur la femme. L'autre aussi évolue sur la femme. Ils utilisent le même nom. Ils utilisent aussi le même nom. Est-ce que cela peut engager aussi qu'il y a une fraude d'idées ou bien une tricherie? Ça peut engager aussi un scientifique à un jugement vraiment purement scientifique ou bien quoi?
D'accord, merci. Esaïe nous appelle d'Mboujimaï. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis Daniel Kachamé. Bonjour aussi à notre invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la protection des œuvres d'esprit?
Oui, j'avais juste une préoccupation à poser à notre élève. Je voulais juste savoir, est-ce que il y a des élèves des sixièmes des humanités qui terminent, il faut faire aussi un petit mémoire sous forme, on appelle ça rapport des stages. Ces rapports-là, ils les font en compagnie de leurs professeurs qui leur donnent quelques idées pour qu'ils arrivent à faire des rapports ici. À ce moment-là, c'est l'élève lui-même qui continue toujours à agencer ses idées personnelles sur copie, mais en compagnie de son professeur. Donc, ces rapports de stage ici, cette œuvre d'esprit ici, que l'élève est en train de faire en compagnie de son professeur, est-ce que ça doit être signé par son professeur ou bien par l'élève lui-même?
D'accord, merci. Alors, Maître Théodore, vous avez la parole.
Merci. Bon, je commence par la dernière question. Les travaux collectifs qui sont réalisés par les élèves sous le contrôle de leurs enseignants, ça peut être l'hypothèse d'une œuvre collective qui est réalisée à l'initiative d'un entrepreneur, personne physique ou morale. Dans ce cas, les droits d'auteur sont acquis sur la tête de l'entrepreneur. C'est une œuvre qui ne protège pas assez les petits auteurs, mais c'est une œuvre qui est valable, qui est reconnue par la loi. C'est-à-dire, lorsqu'il y a plusieurs créateurs, un entrepreneur peut le regrouper et leur payer des salaires, si vous voulez, pour que les droits d'auteur soient établis sur la tête de l'entrepreneur qui a passé la commande. C'est une technique qui est prévue par la loi. Donc là, on peut parler d'une œuvre collective. Alors, il y a une autre hypothèse, on nous parle des idées, on dit, mais pour un même thème, par exemple, la femme, mais il y a plusieurs créations sur
un
même
thème. Sur la décentralisation.
Sur la décentralisation, par exemple.
Voilà.
Mais oui, les thèmes, c'est une idée. Or, en droit d'auteur, nous disons, les idées sont des libres parcours. Donc, le thème à lui-même ne peut pas vous conférer les droits d'auteur. Il faut que l'idée, ce thème-là, soit exprimé avec vos mots propres. Lorsque l'idée est exprimée avec une forme qu'on peut rendre individuelle, là, on peut parler alors d'une œuvre de l'esprit. Mais l'idée à elle seule ne suffit pas pour conférer les droits d'auteur. On ne peut pas monopoliser les idées ou les thèmes. Ce qu'on monopolise, c'est la mise en forme d'une idée. On peut vous donner un thème sur la décentralisation. Chacun va l'utiliser, va exploiter ça avec son
mais
plan.
Mais si on trouve des idées similaires, vous y avez...
Alors là, il peut y avoir une contestation. On saura qui a triché chez l'autre. Et là, ça devient une question de fait qu'il faut apprécier. Et les critères, c'est l'originalité. Mmh. On va chercher à savoir qui a triché chez l'autre, qui est le premier à avoir rédigé ça. Ça, c'est un autre débat. C'est le principe de l'intériorité qui peut nous guider sur la matière. Mmh. Mais parfois, c'est difficile à établir.
Hein. Oui. Alors, dites-nous, comment protéger une œuvre de l'esprit?
Comme je l'ai dit au départ, le principe, la présomption de paternité veut que celui dont le nom figure sur le support de l'œuvre soit considéré comme l'auteur. Par conséquent, c'est cette personne-là qui est reconnue comme titulaire des droits d'auteur.
Qu'est-ce qu'elle doit faire exactement pour que son nom figure, pour qu'on lui reconnaisse cette paternité?
Pour les œuvres littéraires, il n'y a pas de souci. Lorsque vous créez une œuvre littéraire, vous mettez le nom sur la page des gardes, du coup vous êtes reconnu comme auteur. Mais pour mieux sécuriser, pour avoir beaucoup d'éléments de preuve, il est plus intéressant d'obtenir un dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale. Avec le dépôt légal, votre œuvre est enregistrée à la Bibliothèque nationale, vous êtes garanti, vous avez un élément de preuve. Mais on peut aller au-delà. Vous pouvez aussi déposer votre œuvre auprès d'un notaire pour obtenir un acte notarié du dépôt de l'œuvre. À partir de ce moment, ça devient l'œuvre est protégée par un acte authentique qui est pris par un officier public qui est le notaire. À partir de ce moment-là, vous pouvez l'opposer au tiers pour dire non, mais écoutez, moi j'ai déposé mon œuvre chez un notaire à telle date. Et l'acte du notaire fait foi. Ça permet à cet auteur-là de se protéger contre tout le contrefacteur qui viendra après.
Même pour les articles scientifiques. Hein.
Même pour les articles scientifiques, ce sont des techniques qu'on peut utiliser. Ça vous permet d'avoir des éléments de preuve probants. Si je peux me répéter ainsi, des éléments de preuve convaincants, si vous voulez. Donc il y a plusieurs techniques. Mais aussi pour les œuvres musicales, lorsque vous vous affiliez à une société de droits d'auteur et que vous déclarez votre œuvre auprès de cette société-là, c'est déjà aussi une garantie de preuve auprès de cette société-là. Parce que lorsqu'il y a contestation, vous pouvez démontrer que vous avez déposé les premières œuvres.
Mais donc, par exemple, quand vous sortez votre album, vous réalisez votre album, il faut aller à la société des droits d'auteur
pour déclarer. Et la société des droits d'auteur va enregistrer ces œuvres dans un fichier national qui sera transféré à la CISAC. Et la CISAC a l'obligation de produire un fichier international chaque année. Dès que l'œuvre entre dans le fichier international, toutes les sociétés des droits d'auteur du monde sauront que cette œuvre appartient à tel auteur. Bien sûr, s'il y a une contestation, on peut toujours passer par un contentieux même devant la justice. Et dès qu'il y a une décision de justice, celui qui a gagné peut revenir auprès de la société des droits d'auteur pour dire, voilà, moi j'ai gagné, vous corrigez, et on corrige l'enregistrement, et on envoie à la CISAC, et la CISAC corrige l'enregistrement dans les fichiers internationaux.
Mais il peut y avoir, par exemple, un artiste qui a composé une chanson, mais un autre a récupéré, a piraté la chanson, et puis il va l'enregistrer avant le propriétaire même.
Oui. Dans les systèmes classiques du droit d'auteur, la protection est automatique. Donc même s'il a enregistré avant l'autre, le premier, le vrai créateur peut aller en justice pour démontrer que c'est sa création en démontrant qu'il est le vrai, le créateur originel de l'œuvre, en démontrant l'originalité, et il peut amener les témoins pour... Parce que si quelqu'un a appris à jouer son œuvre, même oralement, à plusieurs occasions, avec des témoins qui le connaissent, il peut toujours amener ces témoins devant la justice pour contester, et on pourra lui reconnaître le droit d'auteur. Par contre, dans certains pays anglophones où on utilise le système de copyright, une œuvre de l'esprit n'est protégée que lorsqu'elle est déposée auprès d'un service public approprié. À partir de ce moment-là, vous avez un titre. Donc celui qui se précipite pour aller déposer l'œuvre auprès du service public, il a les titres, il a les droits d'auteur. C'est un système différent qui ne sécurise pas assez les vrais créateurs, qui privilégie celui qui a les moyens pour aller payer auprès d'un service public.
Voilà. Donc, pour aller à la Socoda.
Oui, la Socoda, c'est juste pour la traçabilité de l'œuvre. Mais la protection est automatique. Dès que vous créez, vous êtes titulaire de droit. La loi ne pose pas de formalités pour la protection. C'est le principe de l'absence de formalités. Donc, lorsque vous créez une œuvre de l'esprit, automatiquement, vous êtes reconnu comme auteur de l'œuvre. Maintenant, s'il y a des contestations, vous pouvez aller devant la justice pour que la justice vous départage avec le contrefacteur. Là, c'est un autre problème.
Un autre problème.
Voilà.
On va accueillir Donatien de Kinshasa. Bonjour, Donatien. Donatien, vous êtes en ligne à Kinshasa, depuis Kinshasa, bonjour. Voilà, Donatien n'est plus en ligne, il va certainement nous rappeler. Vous vous souvenez, il y a souvent des conflits comme ça. Un jeune qui a créé, par exemple, un concept ou un festival, il va voir une société brassicole de la place ou une grande société pour le sponsoring. Après, on lui dit, bon, on n'a pas d'argent, il garde quand même le projet. Après, vous apprenez que le même projet a été exploité par cette société brassicole ou une autre à votre insu. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là?
Oui, bon, là aussi c'est un problème réel qui arrive. Il ne faut pas livrer les projets avant que le contrat n'ait été signé. C'est ça le problème, parce que c'est un savoir-faire qu'on peut protéger, c'est une création originale qu'on peut protéger. Très souvent, quand il faut être stratège. La plupart des gens tombent dans les pièges parce qu'ils ne sont pas stratèges. Avant de livrer les produits, il faut que le contrat ait été signé. On peut expliquer le concept, mais on ne voit pas dans les détails. Mais lorsque vous vous précipitez à déposer un projet et que le projet est récupéré par un exploitant, ça devient très compliqué. Surtout que les exploitants sont plus puissants économiquement par rapport aux créateurs de ces projets-là.
Oui.
Et même s'ils vont devant la justice, ça traîne et ça fatigue le créateur de l'œuvre. Parce que eux, ils ont beaucoup plus de moyens de soutenir des procédures judiciaires qui peuvent lui durer très longtemps, alors que l'autre peut s'essouffler très vite. Déjà, il n'a pas les possibilités peut-être de prendre un avocat, ainsi de suite. Les procédures peuvent se multiplier et ça l'épuise. Donc voilà, donc la meilleure façon de se protéger, c'est de ne pas livrer son produit avant que le contrat n'ait été signé. C'est la seule stratégie, à mon avis.
Mais si le partenaire exige d'abord de lire, d'avoir le projet, de le lire
alors, dans avant ces de cas-là, reprendre. Dans ces cas-là, vous pouvez prendre la précaution de déposer le projet chez les notaires, on les certifie, et même si vous le transmettez, c'est à vos risques et périls, parce que si vous n'êtes pas retenu, là vous pouvez aller en justice pour démontrer qu'on vous a pris votre projet.
Projet, oui.
Mais ça devient un long procès à soutenir, ça devient parfois très compliqué.
À un instant, on va accueillir Donatien de Kinshasa. Okay. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi. Aux auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Donatien.
Oui, je disais ceci. Par exemple, quand vous voyez des assistants ou bien des professeurs, ils vont à l'internet, on télécharge même les cours, et puis ils amènent les cours là, ils enlèvent seulement les noms, et puis eux nous amènent les cours là, ils nous disent, bon, vous allez donner les droits d'auteur pour avoir ce cours, peut-être vous donnez $5 et $10. Mais ces cours là, on a téléchargé ça à l'internet gratuitement. Et puis ils ont seulement enlevé les noms des auteurs de ces cours là, et puis ils nous ont amené ces cours là pour nous les vendre, pour nous dire que non, c'est mon œuvre, vous devrez acheter ou bien vous devrez donner un droit d'auteur. Alors je disais ceci. Le cours a été téléchargé gratuitement à l'internet, où il y avait un autre nom de l'auteur. Alors si l'auteur là, est-ce que l'auteur est responsable de ce cours là, peut aussi poursuivre l'assistant là, ou bien le professeur là, ou bien nous aussi, pour les étudiants aussi, quand on accède aussi à l'internet, autrefois, monsieur le journaliste, on peut accéder aussi à l'internet, on télécharge toujours les mêmes cours, mais on constate que l'assistant ou bien le professeur a seulement changé le nom. Est-ce que l'auteur de ce cours-là peut aussi poursuivre le professeur ou bien l'assistant qui a téléchargé ce cours-là pour le vendre aussi à son tour?
D'accord, merci. JR nous appelle de Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, Jody Daniel Kachama. Bonjour à l'invité.
On vous écoute.
J'ai suivi l'invité. Il a dit, à ce qui concerne une œuvre d'esprit, il a dit, lorsque vous conservez une idée et que vous matérialisez cette idée-là, là, ça constitue une œuvre d'esprit. Maintenant, j'aimerais connaître, lorsqu'un enseignant est en train de dispenser son cours, là, il réalise aussi une œuvre d'esprit. C'est ça ma préoccupation.
Merci, J.R. Dembandaka. Maître Théodore.
Merci. Je commence par la dernière préoccupation. En fait, lorsqu'un professeur est en train de donner un cours magistral oralement, il est en train de rendre un travail intellectuel. Lorsque vous enregistrez ces cours-là et que vous le reproduisez sur du support, par exemple, pour les autres étudiants, vous violez un droit d'auteur parce que c'est le cours, c'est une création littéraire. Mmh. Lorsqu'il a conçu la matière, même s'il ne lit pas, il rend la matière oralement, c'est une œuvre littéraire orale, c'est vrai, mais qui est protégée par le droit d'auteur. Donc, lorsque vous enregistrez ce cours magistral et que vous le reproduisez...
C'est les droits de reproduction.
C'est les droits de reproduction qui est mis en cause. Mmh. Alors, pour les cours qui sont copiés à l'Internet, à gauche et à droite, moi, je crois que ça, c'est un travail... c'est un problème qui peut être résolu au niveau des universités et des études supérieures. Le conseil pédagogique ou le conseil facultaire peut commencer à évaluer les enseignants et les obliger à mettre à jour leurs cours pour qu'ils puissent ne pas tomber dans ce genre de plagiat. Parce que lorsque quelqu'un a fait un parcours normal, il a un diplôme de troisième cycle, il a une thèse de doctorat, il ne peut pas s'amuser à aller copier des choses à gauche et à droite gratuitement parce qu'il a un background qui lui permet de concevoir son cours et de l'actualiser régulièrement. Cela s'est fait peut-être dans des instituts où il n'y a pas beaucoup de professeurs, du moins ceux qui ont défendu des thèses, mais là où il y a quand même beaucoup de professeurs qui encadrent les chefs des travaux et les assistants, je crois que le risque est moindre. Et en plus, dans certaines universités, les étudiants évaluent les enseignants à travers des questions anonymes, de sorte que l'université peut évaluer aussi le professeur à travers les contrôles des étudiants. Et s'il y a ce genre d'erreur, de critique, parce que les étudiants aussi ne les dénoncent pas. Si on constate qu'un professeur, un enseignant, par exemple un assistant ou un chef de travaux, a copié servilement la matière à l'Internet, qu'il oui. rend aux étudiants, mais si cela est avéré, l'université ou l'institut peut le sanctionner et lui demander de produire un travail original sous le contrôle de ceux qui sont plus avancés que lui scientifiquement. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là.
Bien, comment protéger une œuvre d'esprit? Nous recevons aujourd'hui Maître Théodore Nganzi, spécialiste des questions des droits d'auteur et président de l'Observatoire des droits culturels. Alors, y a-t-il une différence entre droits d'auteur et droits culturels?
Les droits culturels sont plus larges. Ils vont au-delà de droits d'auteur. Ils peuvent concerner tout ce qui est lié au patrimoine culturel, à l'identité culturelle, même aux droits coutumiers. Donc les droits communautaires font partie des droits culturels parce que c'est une matière assez large. Les langues, la protection des langues, ça fait partie des droits culturels. Les droits d'auteur n'est qu'un aspect de droits culturels.
Mmh. Pour un artiste, par exemple, qui a sorti un album, il les met sur le marché. Donc, il a deux types de droits, les droits de reproduction et le droit de communication publique. Quelle est la différence entre ces deux droits?
La différence principale, c'est que lorsqu'on parle de la reproduction, c'est que l'œuvre est fixée sur un support comme un CD ou comme un livre.
Cassette
dupliquée. Mmh. Mais lorsqu'on parle des communications publiques, c'est que l'œuvre est perçue directement par le public. Par exemple, dans un spectacle vivant, dans un concert ou dans une représentation théâtrale, un orchestre qui joue, qui interprète un répertoire, le public consomme l'œuvre directement sans passer par un support. C'est ça la différence qu'il y a entre communication publique et droit de reproduction. Mmh. Même avec l'Internet, cette frontière est de plus en plus confuse parce que...
Par exemple, on avait suivi dernièrement, il y avait un conflit entre un artiste et une société de communication cellulaire, téléphonique, mm-hmm. qui utilisait sa musique oui. comme sonnerie.
Oui, sonnerie
d'attente. Ça, c'est un droit de communication.
C'est le deux à la fois. S'il y a possibilité de téléchargement, là, on parle aussi des droits de reproduction. Mm. Mais s'il n'y a pas possibilité de téléchargement, et que c'est une sonnerie qui vient du serveur directement. Vous écoutez simplement, vous n'avez pas la possibilité de copier. Là, on parle seulement du droit des communications publiques. C'est tout ce que je peux dire.
Mais le fait de jouer, par exemple, une œuvre dans une radio ou dans les bars, tout ça, c'est les droits, il faut payer des droits de communication à l'artiste.
pas nécessaire, oui, en principe, à l'artiste. Mais dans la pratique, il est difficile à un artiste ou à un auteur de percevoir lui-même les droits de communication publique partout.
Oui, c'est difficile, bien sûr.
Alors, c'est pour ça qu'on a recouru à la gestion collective. On crée une société des droits d'auteur qui reçoit les mandats des artistes pour agir en leur nom et pour leur compte auprès des exploitants des œuvres. Comme ça, la société va servir d'intermédiaire. Elle perçoit pour les comptes des artistes et à la fin, elle répartit aux artistes. Et là où la société ne peut pas arriver, elle fait un accord de réciprocité avec les sociétés des autres pays. Et ils font comme ça, lorsqu'elle perçoit pour les artistes étrangers, ils reversent auprès de leur société de droits d'auteur, et ainsi de suite. Voilà comment ça fonctionne.
Mais aujourd'hui, un bon nombre d'artistes se plaignent par rapport à la piraterie. Leurs œuvres ne sont pas du tout protégées. Vous avez dit le fait de mettre votre nom sur l'œuvre, ça vous assure déjà la paternité. Mais il y a trop de piraterie sur le marché. Ils peuvent sortir une œuvre d'esprit, mais il n'y a pas de retour. Donc, ils n'ont pas de bénéfices par rapport à cela.
Oui, la piraterie, c'est une question très complexe. Je dirais même que c'est une question actuellement, une question de sécurité publique qui exige de la part de l'État des mesures assez dynamiques à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux, déjà au niveau de l'Internet, il y a beaucoup de piraterie qui s'est fait à l'Internet. Au niveau des frontières, lorsque les œuvres arrivent, il y a beaucoup d'œuvres contrefaisantes qui entrent sur le territoire national. Donc il faut qu'il y ait une politique nationale de lutte contre, de lutte contre la piraterie des œuvres à plusieurs niveaux. Parce que on peut aussi adopter une politique de rémunération, de compensation pour les supports qui rentrent, là où nous le téléphone portable, le support comme les CD vierges qui nous permettent de copier les œuvres, contribuent aussi à la piraterie. Alors, il faudrait qu'il y ait une rémunération compensatoire sur ces différents supports. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit travailler pour lutter contre la piraterie. On a besoin d'une brigade de lutte contre la piraterie. Or, cette brigade-là, elle doit être payée pour fonctionner normalement. Mais si elle n'est pas rémunérée, si elle n'est pas payée, parce que là aussi, c'est une grande difficulté. On a toujours parlé de la piraterie, mais on ne sait pas qu'il y a, toute une brigade qu'il faut mettre en place pour lutter contre la piraterie. Et si la brigade-là n'est pas payée, elle ne reçoit pas des primes, dans plusieurs pays, la piraterie a toujours... La lutte-là a toujours échoué à cause de ça, parce que le service...
Donc, il faudrait qu'il y ait une unité spéciale au sein de la police.
Une unité spécialisée, et qui ferait ce travail-là, et qui serait rémunérée à travers des mécanismes de compensation, tout ça, comme je l'ai dit, avec la copie privée, on peut diriger une partie de ces fonds-là vers cette brigade. Comme ça, elle sera motivée, elle pourra faire le travail correctement. Sinon, ça ne sera pas très efficace. Ça, c'est les grands défis pour la lutte contre la piraterie. Il faut qu'il y ait une brigade qui circule et qui fait le travail de terrain de manière efficace.
Et aujourd'hui, bon nombre d'artistes, par exemple, préfèrent, lorsqu'ils sortent, par exemple, un album sur le marché, ils préfèrent commencer par vendre, par exemple, sur Internet. Les gens peuvent télécharger, ils payent, et puis ils peuvent télécharger un album ou une chanson avant de mettre, par exemple, les CD sur le marché.
Oui, l'Internet présente beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que le marché est plus large. Parce qu'avec l'Internet, on peut vendre au monde entier. Et le produit est mis à disposition d'un grand public. Deuxièmement, avec l'Internet, on peut vendre en détail. C'est-à-dire, au lieu que le consommateur aille acheter un CD qui contient 10 chansons, par exemple, il peut acheter une chanson à l'Internet. Et même s'il a moins d'argent, il peut facilement acheter. Au lieu d'acheter, par exemple, un CD de 10 chansons à 10$, il peut acheter sur Internet une seule chanson à 1$. Donc, c'est une possibilité d'atteindre plusieurs catégories de consommateurs, même les moins nantis. C'est ça l'avantage de l'Internet. Et on a un public plus large. On ne vend pas seulement dans son pays, mais on peut vendre aussi à travers le monde. Et ça va un peu plus vite que la vente de supports physiques.
Et l'artiste peut aussi, comme on le dit ici, se retrouver, donc dans ses droits.
Il peut se retrouver de diverses manières. Déjà, en termes de rémunération, et deuxièmement, en termes de promotion. Parce que lorsqu'un artiste est très connu grâce à ses œuvres qui sont vendues à l'Internet, eh bien, il peut obtenir des marchés de spectacles qu'il peut aller livrer dans plusieurs pays parce qu'il est mieux connu dans ces pays-là, parce qu'on l'a déjà écouté, on l'a déjà vu sur...
On connaît ses œuvres.
On connaît ses œuvres et ça lui présente beaucoup d'atouts, quoi. Alors qu'avant, c'était difficile pour un artiste de se faire connaître à travers le monde parce que les œuvres circulaient lentement. Mais maintenant, avec l'Internet, ça va beaucoup plus vite. C'est quand même un avantage certain.
Mais ce qui est vrai, il y a beaucoup de talents, des personnes qui créent des œuvres, mais il y a aussi beaucoup de voleurs des projets. Alors, pour éviter cela, la piraterie et autres, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger une œuvre d'esprit?
Bien.
Et en plus, pour jouir des droits y afférents.
Bien sûr. La première chose, c'est le contrat. Il faut faire un bon contrat avec tous ceux qui veulent exploiter les œuvres. Les producteurs des œuvres, les éditeurs et tous ceux qui assurent la promotion doivent signer des contrats avec des auteurs. Si vous négociez des bons contrats, c'est déjà un premier pas qui vous sécurise. Deuxième élément, c'est au niveau de la société des droits d'auteur. La société des droits d'auteur doit faire son travail correctement. Parce qu'elle a quand même une capacité plus grande que l'artiste pris individuellement. Mmh. Or, si la société des droits d'auteur ne fonctionne pas très bien, l'artiste ne pourra pas se retrouver partout pour faire les travaux. Or, la société des droits d'auteur peut avoir des ramifications dans les provinces et faire les travaux que l'artiste ne peut pas faire individuellement. Troisième niveau des responsabilités, c'est au niveau de l'État. L'État doit adopter une politique culturelle qui soit dynamique, qui permette aux artistes d'être protégés. Parce que si l'État protège les contenus culturels nationaux, si l'État met en place des stratégies contre la piraterie, ça peut avoir des résultats positifs. Donc il y a des responsabilités à différents niveaux, au niveau de l'artiste, la société des droits d'auteur et au niveau de l'État. Donc voilà ce que je peux dire à ce niveau-là.
Oui, Malonga a parlé tout à l'heure aussi de ceux qui font le théâtre, par exemple. C'est une œuvre d'esprit, une pièce théâtrale, mais il y a parfois certains groupes qui... vous avez l'impression que c'est la même pièce qui est jouée partout. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là pour déterminer la paternité et éviter le piratage aussi?
Oui, bon, à ce niveau-là, c'est parfois compliqué. Il faut que les artistes se parlent aussi dans leur corporation pour qu'ils évitent ce genre de situation qui crée une concurrence déloyale, qui crée des confusions. Il faut qu'ils s'organisent, qu'ils améliorent aussi la qualité de leurs produits et qu'ils identifient mieux leurs produits pour éviter ce genre de situation. C'est une question de déontologie professionnelle, simplement. Alors, à un niveau, à un autre, si ça ne marche pas, on peut saisir la justice parce que la justice est là aussi pour ça, pour départager les personnes qui sont en conflit.
Voilà. Vous êtes auteur d'une œuvre d'esprit et vous en avez la paternité. Les droits d'auteur, on peut dire que s'élèvent à quel montant ou pourcentage par rapport à cette œuvre lorsqu'il y a reproduction, par exemple, ou communication publique? Quel est le pourcentage qui vous revient des droits?
Bon, notre loi dit, lorsque l'auteur cède ses droits, il doit recevoir une rémunération qui ne doit pas dépasser 10%, qui ne doit pas être en deçà de 10% des recettes d'exploitation de l'œuvre.
C'est ça, quoi céder ses droits?
C'est-à-dire que lorsque vous voulez que votre œuvre musicale, par exemple, soit jouée dans un concert par un orchestre, vous devez céder les droits de communication publique. Lorsque vous voulez que l'œuvre soit fixée sur les CD, vous devez céder les droits de reproduction. Dans tous ces cas-là, ce qu'on doit vous payer ne doit pas être en deçà de 10% des recettes de l'exploitation de l'œuvre. Mais ça, c'est une question théorique. Dans la pratique, tout se négocie. On peut même recourir à des forfaits pour obtenir un prix raisonnable. Voilà ce que je peux dire.
Bien, Maître Théodore Nganzi, spécialiste des questions des droits d'auteur et président de l'Observatoire des droits culturels, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation et excellente journée.
Merci.